Mes chers collègues, je vous propose de prendre place. Comme d'habitude, le premier rapport concerne la nomination du secrétaire de séance. L'usage veut que le plus jeune membre de l'Assemblée remplisse cette fonction. C'est donc Youri Philippe qui est aujourd'hui le plus jeune, n'en déplaise à certains. Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, merci pour cette nomination. Nous passons au rapport 2.1 qui concerne la reprise pour provision pour risque juridique. Suite à l'achèvement du contentieux avec la SAS EVTP, je vous invite à reprendre la provision constituée à hauteur de 115 179,35 € dans le dossier en question, qui était à l'époque destiné à couvrir les risques juridiques. Il s'agit effectivement d'une provision qui avait été liée à un contentieux relatif aux travaux de rénovation de la place Bernard Stasi, pour laquelle la ville avait saisi la justice pour obtenir réparation de son préjudice. Le différend portait à la fois sur le pavage d'un secteur de la place et sur les caniveaux, et également sur les éclairages. Et il a été donné raison à la ville par la justice, et donc il n'y a pas lieu de maintenir cette provision. Merci. Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention. Je vous annonce les pouvoirs, j'ai oublié de le faire. Sébastien Durand-Soye, représenté par Chantal Clément. Hélène Perrin, représentée par William Richard jusqu'à son arrivée. Édouard Rabon, représenté par Astrid Tussaud jusqu'à son arrivée. Et Joachim Verdi, représenté par Christine Mazzi. Nous passons donc au rapport suivant, le rapport 2.2 concernant la concession de services, exploitation et gestion du futur restaurant du musée. Dans le cadre de la concession de services à passer en vue de l'exploitation et la gestion du futur restaurant du musée, il convient de constituer la commission ad hoc composée d'un président, le maire ou le représentant qu'il désigne, et de 5 membres titulaires. Afin de faire face à d'éventuels remplacements, il convient de prévoir 5 suppléants qui seront pris sur la même liste que le conseiller à remplacer dans l'ordre de présentation. C'est la raison pour laquelle une liste complète comportera 10 noms. Comme indiqué dans le rapport, il s'agit d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de chaque liste. Alors, au nom de la majorité municipale, je vous propose la liste suivante. En titulaire, Michel Brixy, Christian Demongin, Benoît Moitié, Jacques Fromme. En suppléant, Christine Mazzi, Damien Gaudier, Jonathan Verdier, Joachim Verdier. Il reste donc un poste de titulaire, un poste de suppléant. Pardon ? Qu'est-ce que j'ai dit ?
Jonathan Verdier.
Alors, Jonathan Rodriguez et Joachim Verdier. Il y a bien les deux. C'est un raccourci. Alors donc, il reste un poste de titulaire, un poste de suppléant. Alors, pour l'opposition, évidemment, je ne sais pas si... Comment ? Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Pas d'autres candidats. Donc, je vous propose de mettre tout le monde sur la même liste. On peut voter par main levée ?
Non, mais si...
Voilà.
Il n'y a pas besoin de
voter. Pas d'autres candidats ? Voilà. Bah écoutez, le problème est réglé. Sauf si tout le monde vote contre ?
Non, non, s'il n'y a qu'une seule liste, on vote pas.
Mais même si on vote tous contre.
Merci. Pas
bien. Nous passons donc au rapport 2.3. Christine Mazzi.
Merci, monsieur le maire. Je vous propose de mettre au vote les deux délibérations 2.3 et 2.4 simultanément, puisqu'il s'agit, ces deux délibérations concernent un emprunt qui est souscrit par le CCAS concernant la construction d'un bâtiment qui accueillera la résidence autonomie et le pôle animation senior. Donc la délibération 2.3 concerne la sollicitation de la collectivité pour l'accord de ce prêt, puisque conformément à la réglementation, le CCAS doit préalablement à la souscription d'un emprunt solliciter l'accord de la collectivité. Et la délibération 2.4 concerne la garantie de cet emprunt. Donc le CCAS sollicite la collectivité pour garantir cet emprunt à hauteur de 100%.
Très bien. J'imagine qu'il n'y a pas de questions sur ce rapport. Peut-être un mot, Candy, sur l'avancement du... Oula. Oui, un mot sur l'avancement du projet.
Oui, ça avance dans les délais. Nous sommes au troisième étage pour l'instant. Et il y aura une visite des travaux avec un appartement témoin au mois de mars.
D'accord.
Voilà, qui okay. est programmé. Mais sinon, on est dans les temps.
D'accord, très bien. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2-5. Christine Mazzi.
La société d'HLM Plurial Novilia, en profitant de la conjoncture favorable en matière de taux, a renégocié sa dette auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, dans ce cadre, Plurial nous sollicite afin de renouveler ses garanties d'emprunt. Donc, la liste des différents prêts est annexée au projet.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 2-6. Toujours Christine.
Alors, ce rapport concerne l'adoption du rapport de la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc, cette commission, pour rappel, a pour rôle principal de procéder à l'évaluation des charges liées au transfert de compétences entre les communes et le PCI à fiscalité professionnelle unique. La CLECT s'est réunie le 20 septembre 2018 pour examiner divers points. Il s'avère que de nouvelles compétences figurent dans ce rapport. En ce qui nous concerne, donc, la loi GEMAPI, hein, qui est la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations. Autre point, le transfert de l'office de tourisme. Et puis, il figure également une correction d'évaluation des AC, puisque une subvention perçue dans le cadre de la politique de la ville n'avait pas été comptabilisée dans le premier rapport.
Donc, c'est un ajustement, on va dire.
C'est un ajustement.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est donc adopté. Nous passons ensuite au rapport 2-7. Toujours Christine Mazzi.
Donc il s'agit de la décision modificative numéro 4. Un certain nombre de points y figurent. Il s'agit pour la plupart de mouvements d'écriture qui ne génèrent pas de modifications financières. Donc en ce qui concerne le budget de la ville, vous y voyez l'inscription en dépenses et en recettes d'une enveloppe de 109 000 euros qui correspond aux avances et au remboursement des 5% de garantie dans le cadre des marchés de travaux. Vous savez qu'à chaque marché, il nous faut avancer une partie des montants. Autre point, une ouverture de crédit, là aussi en dépenses et en recettes, donc pas de génération de flux financiers, pour le refinancement d'un emprunt en cours auprès du Crédit Agricole. Nous avons là aussi, nous exerçons une veille régulière en ce qui concerne les prêts. Nous avons décidé de renégocier un prêt auprès du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole n'a pas accédé à notre requête, donc nous avons souscrit ce prêt auprès de la Banque Postale. Pour autant, donc, il s'avère que, compte tenu également des indemnités pour remboursement anticipé, la ville fait une économie de 40 000 euros sur ce prêt. Autre point, un transfert de crédit pour le paiement des travaux qui ont été faits par le CIEM. Le montant était initialement comptabilisé en travaux de voirie et nous devons le transférer en subvention d'équipement. Une ouverture de crédit d'un montant de 96 000 euros qui permet la comptabilisation du dégrèvement d'un montant de la taxe d'habitation sur les locaux vacants. Donc c'est une somme qui nous est transmise par la recette municipale. Le versement d'une subvention exceptionnelle au budget annexe parking qui permet la réalisation de travaux qui modifient le sens de circulation pour un montant de 27 500 euros. Et la diminution du montant des attributions de compensation suite au transfert de la compétence GEMAPI, ce que l'on vient de voir au niveau de l'adoption du rapport de CLECT. En ce qui concerne le budget annexe parking, donc l'inscription de crédits supplémentaires qui permet la réalisation de travaux qui modifie le sens de circulation, ce que l'on vient de voir dans le budget parking. Un dépassement des charges de personnel également d'un montant de 25 000 euros qui se justifie par le rattrapage de bonification et la nouvelle prime IFSE qui était prévue et pour laquelle nous sommes dans l'attente de la sortie des décrets d'application pour l'éligibilité de nos agents au RIFSEP. Et puis une annulation d'un titre 2017 sur la régie de stationnement suite à une erreur de frappe sur le nombre d'abonnements facturés, donc simplement pour régulariser une erreur. Et en ce qui concerne le budget du chauffage urbain, il s'agit simplement de régulariser des écritures d'actifs puisque nous annulons la subvention d'équipement transférable et nous la comptabilisons en subvention d'équipement non transférable. Et puis, une modification également en ce qui concerne le budget annexe des cellules commerciales de Bernon. Il s'agit là encore de régularisation d'écriture d'actifs, puisque, suite à la réduction d'une subvention perçue l'année précédente, l'amortissement de subventions comptabilisées doit être annulé.
Merci, Christine. J'imagine qu'il n'y a plus de questions après autant d'explications. Avis contraire ? Abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.8. J'ai presque des scrupules à te redonner la parole, Christine.
Non, je vais la garder. Donc, il s'agit d'attribution de subventions. Donc, dans le rapport qui vous a été remis, divers groupements et organismes ont adressé des demandes de subventions et je vous propose d'y répondre favorablement en attribuant les sommes énumérées dans la délibération qui est jointe.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions particulières. Avis contraire. Abstention. Le rapport est adopté. Nous arrivons au rapport 2.9. Christine Mazzi, toujours.
Donc là également, je vous propose de passer les deux délibérations 2.9 et 2.10, puisqu'il s'agit dans les deux cas de groupements de commandes. Donc un premier groupement de commandes qui regroupe la ville d'Épernay, le CCAS et la communauté d'agglomération. D'une part, pour des prestations d'exploitation des installations de chauffage, climatisation, ventilation de divers bâtiments, ainsi que le traitement d'eau des espaces aquatiques. Et le deuxième groupement de commandes qui regroupe là aussi la ville, le CCAS et la communauté d'agglo, pour tout ce qui concerne les services de télécommunication, donc qu'il s'agisse de lignes fixes ou mobiles.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous passons au rapport. On va peut-être pas passer le rapport de 10 ou 11 tout de suite parce que Jacques Fromm n'est pas encore arrivé. Donc on va passer directement au rapport suivant qui doit être le rapport 3.1 qui concerne donc Magali Carbonel.
Alors la ville d'Épernay met en place un fonds de soutien financier à l'école de la citoyenneté afin de proposer aux directeurs des écoles qui le souhaitent une aide pour réaliser leur projet. Donc cette année, 9 écoles ont sollicité donc cette aide et le thème qui est le plus demandé est l'éducation au développement durable. Voilà, donc vous avez la liste des demandes. Je vous propose donc de valider l'attribution des moyens sollicités au titre de matériel pédagogique nécessaire pour les actions ainsi que les sorties et animations dans le cadre de ces projets. Alors à noter qu'une école nous demande donc une aide pour un projet sur 2 ans. Donc 15 640 sont demandés au titre de l'éducation à l'environnement et au développement durable pour l'année budgétaire 2018 et 4 620 toujours au titre de l'éducation à l'environnement et au développement durable pour l'année 2019.
Comment se recruter les intervenants? Ce sont des associations spécialisées qui...
Des intervenants
pour les différents... parce que ce sont des projets en extérieur ou c'est des projets également dans l'école?
Des projets qui durent pendant toute une année scolaire.
Oui, mais il y a des intervenants dans la classe.
Et, pas forcément. Et ils nous sollicitent surtout pour leur sortie.
D'accord.
En général, ils font une sortie.
Donc là, c'est les déplacements.
Et voilà, c'est le déplacement essentiellement. Et puis un petit peu du petit matériel. Alors on a différents types de sorties. On a Amnéville, on a une sortie à Cumières, à Villers-sur-Châtillon, une classe d'eau. On a beaucoup à Pourcy, une classe nature, une sortie nature à Pourcy. Et là, sur les 9 classes, on en a 7 qui relèvent du développement durable. Ça a vraiment eu beaucoup de succès cette année.
D'accord.
Alors qu'on a aussi d'autres thèmes. On a aussi les valeurs de la République et la valorisation du patrimoine local.
D'accord.
Voilà. Et là, on a simplement 2 classes cette année qui font un projet autour du patrimoine local.
Très bien.
Voilà, donc le développement durable.
Des questions?
Et on touche 600 élèves avec
D'accord.
ces projets-là.
Oui.
Juste un complément pour... pour compléter ce que vient dire Magali, il y a 2 structures partenaires assez importantes qui participent avec des intervenants extérieurs, soit sur place, soit dans leur structure. C'est l'Agence de l'eau et le Parc naturel régional des montagnes de Reims.
D'accord. OK. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3.2, Abida Sharif.
Merci.
Donc, comme vous le savez, depuis 2009, la ville d'Épernay a mis en place la bourse au permis. Au jour d'aujourd'hui, il y a 349 bourses attribuées, auxquelles il faut s'ajouter les 23 qu'on va voter ce soir. Donc, la commission d'attribution, c'est vrai qu'en ce moment, elle réfléchit beaucoup parce qu'on va changer un peu la charte, les règles de cette attribution de bourses. Depuis 2009, la population a changé. Il y a eu de l'évolution. L'évolution, c'est-à-dire que la plupart des personnes qui postulent pour cette bourse ont d'autres difficultés que de passer le permis de conduire. Donc, du coup, ça les met en difficulté encore plus. Donc, avec tous les membres de la commission, on est en train de réfléchir, de voir comment l'améliorer et évoluer aussi cette règle, cette charte d'attribution. Jusqu'à maintenant, on a eu 349 bourses, on a eu 133 bourses supprimées, 181 codes obtenus, dont 114 permis. Donc voilà, et puis là, on a 23 lauréats, 23 000 euros la somme pour l'ensemble des bourses. Donc, vous avez tous les noms énumérés dans vos dossiers. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, je vous propose d'approuver le versement de ces bourses aux personnes qui sont énumérées dans vos dossiers.
Merci. Il y aura sans doute des modifications aussi liées à la réforme annoncée il y a quelques jours du permis dont les prix devraient normalement chuter.
Oui.
Ça impactera nécessairement notre dispositif, donc il faudra très certainement...
Alors, le permis au jour d'aujourd'hui, il faut compter à peu près 2000 euros. Donc, nous, la bourse, elle peut aller jusqu'à 1200 maximum. C'est vrai que je ne sais pas ce que le gouvernement va faire, comment il va faire, mais c'est peut-être qu'il y aura... notre bourse va être un complément de ce que va faire l'État.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'on est en train de réfléchir sérieusement parce que l'évolution, elle a évolué, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que les personnes, elles sont plus dans la précarité qu'il y a en avant.
D'accord.
Voilà.
Des questions sur ce rapport ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4.1, dispositif BAFA à coût zéro. Pierre Marandon.
Merci, Monsieur le maire. Le BAFA à coût zéro est un dispositif qui a été initié par la ville en 2016. Il permet à des jeunes sparnassiens intéressés par les secteurs de l'animation de suivre les 3 stages de formation avec l'organisme de leur choix, sachant que la ville prend à sa charge les frais afférents en concurrence de 860 euros, en contrepartie de la réalisation du stage pratique de 14 jours au sein d'un dispositif de la ville. Comme sur les 2 précédentes promotions, le BAFA à coût zéro sera proposé en 2019 à 7 jeunes sparnassiens. Alors, un jury composé de 4 agents de la collectivité, le PIGE, Centre sociaux, Service éducation et un directeur de centre, recevra fin janvier tous les candidats, qui sont sparnassiens, âgés de 17 à 22 ans, et dont la ligne 14 de l'avis d'imposition, enfin en général chez des parents, est inférieure à 900. Pour compléter votre information, nous avons reçu en 2016, sur la première année, 15 dossiers, en 2017, 13 dossiers, et en 2018, 24 dossiers. Sur les 2 premières sessions, 13 formations sur 14 ont été validées et 8 jeunes ont travaillé au service de la ville depuis. On attend notification pour la promotion 2018, des 7 jeunes dont on sait qu'ils seront validés.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Je reviens sur le rapport de 11 puisque Jacques Fromm ne pourra pas être là ce soir. Donc je vais présenter le rapport à sa place, le rapport de 11. Qui concerne les habits de lumière qui auront lieu les 14, 15 et 16 décembre prochains avec évidemment les temps forts habituels. Et vous avez dans ce rapport de 11 présenté différentes conventions. La première avec l'association Flago Légende qui reste partenaire de la parade automobile puisque c'est elle qui y contribue très largement et ce depuis des années. Une convention également avec Michel Maillard, propriétaire de locaux à l'angle de l'avenue de Champagne et de la rue de Lorraine qui met à disposition ses locaux. Et une convention également avec le Champagne de Castellane qui met à disposition son parking à Nuit de Champagne pour la bonne organisation de l'événement. Donc ce sont des conventions assez classiques. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous arrivons au rapport 4.2. Christian Demongin.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'accueillir, comme dans des séances précédentes, de nouveaux mécènes pour le financement du musée, afin d'approuver les conventions de mécénat et d'autoriser le maire ou son représentant à les signer. Alors, quelques détails, de qui s'agit-il? Eh bien, alors, les dossiers 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 sont tous sur le mécénat. 4.2, de Venoges, la maison de Venoges qui propose 100 000 euros en numéraire et 50 000 en nature, sachant qu'il s'agit de copies de tableaux du XVIIIe siècle. Il souhaite s'associer à la restauration de la salle consacrée à l'imaginaire à la dégustation. Alors, les deux tableaux sont le déjeuner d'huître et le déjeuner de jambon. Dossier 4.3, c'est la société Veralia qui souhaite s'associer également au projet et présentant surtout le travail des caves et la fabrication des bouteilles. Elle propose 100 000 euros en numéraire et 50 000 euros en nature, le nature étant un moule de Nabucco, 10 formats de bouteilles et une vidéo sur la création du verre. 4.4, c'est Bec Construction Champagne qui s'associe et qui verse 25 000 euros. 4.5, c'est la société Sofralab qui propose 20 000 euros. Et en 4.6, c'est la Fondation du patrimoine qui s'associe également au projet et qui verse une subvention de 15 000 euros.
Je crois que ce n'est pas la première subvention de la Fondation du patrimoine.
Ils ont déjà versé 30 000 il y a quelques temps.
Très bien. Bon, ça continue à rentrer. Le travail qui est fait par nos services est tout à fait excellent. Il y a de nombreux contacts de noués. Il faut parfois un petit peu de temps pour que les choses se dénouent, parce que les dossiers de mécénat sont jamais faciles à conclure. Et j'ai cru comprendre que la réforme qui avait été envisagée du mécénat était repoussée, ce qui est plutôt une bonne chose pour la poursuite de nos quêtes en termes de mécénat. Et donc, évidemment, on aura très vraisemblablement au prochain conseil au pluriel, en tout cas on le souhaite, d'autres conventions de ce type à signer. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous arrivons au rapport 4.7. Toujours Christian Demongin, ça concerne la mise en place d'une convention type de partenariat pour les médiathèques et les partenaires éventuels.
Voilà, et comme le dit le titre, il s'agit de mettre en place une convention type pour que les choses soient claires et nettes. Et donc, la convention, vous la voyez dans les documents remis. Et je vous propose de l'approuver.
Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous arrivons au rapport 5.1 qui concerne protocole SEM ballon captif. Chers collègues, en dehors de la réalisation de la plateforme à la charge de la collectivité, d'autres travaux limités ont été réalisés par la ville d'Épernay pour permettre l'ouverture du ballon captif. Pour que ces travaux soient pris en charge et remboursés par la SEM du ballon captif, il vous est proposé donc un protocole. Ce protocole donc prévoit simplement les travaux et frais de fonctionnement concernant la téléphonie et l'électricité qui avaient été pris en charge par la collectivité lors du démarrage de l'exploitation du ballon, et ça fait l'objet d'une régularisation. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Oui, Madame Demange.
Oui, qui ne concerne pas tout à fait le dossier, mais la SEM, si je peux me permettre. Je trouve qu'au niveau de la communication sur le ballon captif est très mauvaise. Actuellement, la caisse a été déplacée à l'Office du tourisme. Il n'y a aucune communication qui a été faite là-dessus. Il faut arriver sur le site pour le voir. Et je ne comprends pas trop pourquoi c'est l'Office du tourisme qui gère la communication du jour de la météo. Il me semble que l'Office de tourisme va être transféré à la communauté d'Aglo au mois de janvier. Donc, est-ce qu'il y aura une page Facebook du ballon captif d'ouverte pour communiquer plus sur le ballon?
Un petit mot d'explication, Benoît?
Oui, un certain nombre de. J'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, donc simplement. Je réitère, un certain nombre d'initiatives verront le jour à partir de décembre, d'autres au cours de la prochaine saison. Il se trouve que pour une question liée à une meilleure mutualisation entre l'Office de tourisme et la SEM, il y a un certain nombre d'opérations qui sont couplées. Nous n'avons plus de bulles, donc il fallait trouver un site à proximité. Un site à proximité avec une billetterie. Or, l'office de tourisme est situé à même pas 100 mètres avec une billetterie. Et nous aurons même un second point de vente durant les fêtes, puisque comme la géode sera localisée à proximité du village des Féeries, il y aura un double point de vente et à l'office de tourisme et sous la géode. Donc on va multiplier les points de vente. Je vous rejoins sur la communication qui est encore perfectible. Le directeur et la chargée de communication s'y attellent. Donc nous aurons vraisemblablement, dans le cadre du budget qui sera voté pour l'année 2019, un certain nombre de plans un plan de communication avec un certain nombre d'actions à adopter. Quand je dis nous, c'est le conseil d'administration, bien évidemment. Donc là, en l'occurrence, il y a eu des communications via les réseaux sociaux sur la vente de billets. Sur la vente de billets qui se fait donc à l'office de tourisme. Il y a au niveau de l'office de tourisme des personnes qui appellent pour justement faire des réservations. Donc si les touristes appellent l'office de tourisme, c'est quand même que l'information circule. Pour autant, je vous rejoins sur le fait qu'on est dans une situation un peu transitoire, un peu compliqué du fait du retard pris pour la livraison du bâtiment. En cela, je rappelle juste que c'était quand même un souhait de la part du conseil d'administration de plutôt installer les bâtiments en période basse de fréquentation, et c'est la raison, voire en période de fermeture, et c'est la raison pour laquelle les locaux ne seront livrés que dans le courant du mois de janvier. Voilà. Donc on a un petit délai là. On a un petit temps, effectivement, de une période transitoire sans structure. On pallie cela avec les moyens dont nous disposons, mais c'est vrai que c'est pas probant. Maintenant, c'est pas catastrophique dans la mesure où malheureusement le temps. J'en discutais encore aujourd'hui avec le responsable des pilotes. Le temps n'est pas propice et les derniers jours, par exemple, qu'il y ait de la vente de billets à l'office de tourisme ou qu'il n'y en ait pas, ça ne change rien puisqu'on a des rafales de vent qui nous interdisent de voler. Donc c'est vrai qu'en plus, le temps n'est pas propice, mais on savait pertinemment que ce ne serait pas au mois de novembre que nous ferions les entrées les plus significatives. Donc à partir de... pour vous donner un ordre d'idée, il va y avoir un certain nombre d'opérations mises en place. Nous avions échangé cet été sur un petit dépliant explicatif de l'environnement qui s'offre à nous à 360 degrés. Donc ce sera vraisemblablement les dépliants seront présentés tout début janvier et donc distribués aux clients du ballon captif. Et j'ai également proposé pour les fêtes de fin d'année, et comme c'est un produit qui plaît beaucoup aux enfants, que nous puissions, sur l'un des week-ends de décembre, mener une opération à destination des enfants. Et tout adulte qui sera accompagné d'un enfant, nous offrirons la place à l'enfant. Donc ça fait partie, on avait eu l'occasion d'évoquer les actions qui pourraient être mises en place pour les habitants du bassin de vie. Je pense que la période de Noël, c'est sympa pour découvrir Épernay illuminé, et pas seulement Épernay, mais son bassin de vie. Donc il y aura certainement le premier ou le deuxième week-end de Noël, enfin de décembre, pardon, une initiative de ce type. Et puis donc nous aurons, dans le cadre du conseil d'administration à venir, à adopter un plan de communication. C'est en tout cas la commande que j'ai passée au directeur et à son équipe dans le courant de cet été et que j'ai réitéré récemment. Voilà.
Oui, on peut dire que l'année 2018 est un peu l'année zéro puisque c'est une année de mise en route. Il va de soi que la véritable année de référence, ce sera l'année prochaine, puisque là, on aura une année complète. On aura la possibilité d'enregistrer des réservations bien avant la saison touristique, ce qui va évidemment booster la fréquentation du ballon. Et puis, on aura surtout nos locaux définitifs qui, là aussi, afficheront de manière parfaitement claire la situation de la météo, alors qu'actuellement, on était dans une situation... assez convenable jusqu'à ces derniers jours. Et là, on va rentrer dans une période de transition vers les nouveaux bâtiments qui, vous l'avez compris, arriveront en début d'année. Et ce qui va nous permettre, on va essayer de faire au mieux dans la période qui vient. Mais le vrai départ, en fait, ça va être le lancement de la saison 2019, qui sera, elle, effectivement, une saison à plein. C'est-à-dire où là, on doit déployer en termes de communication dans des locaux qui seront autrement plus confortables pour accueillir les visiteurs, pour faire patienter le cas échéant les visiteurs, pour leur permettre également de bénéficier d'un local où ils pourront acheter un certain nombre de souvenirs. On sera dans de bien meilleures conditions au début de l'année. Benoît ?
Oui, également au titre des nouveautés, même si ce n'est pas encore acté par le conseil d'administration, donc... La décision n'est pas prise. En tout cas, elle sera soumise à l'approbation des administrateurs. Nous allons nous doter, tout comme l'a récemment fait le ballon captif du parc Disneyland, nous allons nous doter de casques de réalité virtuelle. Et donc, les personnes qui, soit lorsque le ballon est collé au sol, si j'ose dire, pour raisons météorologiques, soit pour des personnes... Qui ont le vertige, si tant est qu'on puisse avoir le vertige, en tout cas qui pourraient avoir qui craindraient un malaise en s'élevant à plus de 150 mètres de haut. Donc elles pourront rester au sol et avec un casque à réalité virtuelle, elles pourront découvrir ce que découvrent ceux qui montent dans la nacelle et elles auront qui plus est un système d'information. Où en fait en regardant un point elles pourront savoir ce qu'elles regardent. Voilà, donc ça fait partie là aussi, c'est un outil complémentaire, hein. On remplace pas le ballon, l'attractivité principale reste le ballon, mais c'est une nouvelle technologie et il me semble important qu'on puisse proposer une alternative lorsque la météo n'est pas bonne et que également nous puissions offrir à ceux qui ne veulent pas qui n'osent pas grimper dans la nacelle, qu'elles puissent quand même admirer le paysage qui est le nôtre.
On a quand même pas mal de personnes qu'on rencontre qui nous disent être tentées d'y aller, mais qui ont peur, qui craignent d'avoir peur ou d'avoir le vertige, alors qu'ils n'ont pas spécialement le vertige. Donc je pense que le temps passant, ces personnes finiront par céder à la tentation. Mais c'est vrai que c'est très spectaculaire quand on est à 150 mètres. Ça offre une vue absolument magnifique, quels que soient les moments de la journée. Mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de gens qui attendent de voir si ça va tenir longtemps avant de se lancer, de crainte que le ballon s'envole ou je ne sais quoi.
Dernier point. Donc nous avions tablé sur une première année d'exploitation en année pleine. Première année d'exploitation pleine sur 35 000. On a commencé donc début juillet, donc finalement c'est une demi-année et nous sommes déjà à 17 000 personnes. Donc finalement, si on compare par rapport à la prévision sur une année pleine, on est vraiment dans les temps.
Merci. D'autres questions ? Pas de questions. Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5.3 Anne-Marie Legras. C'est un rapport qui commence à devenir familier.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose de délibérer sur deux dossiers déjà évoqués lors de précédents conseils. Le 5.2, il s'agit de la cession d'une parcelle de 324 mètres carrés à l'Allée de Cumières qui a été désaffectée puis déclassée en octobre dernier. Les conditions sont identiques à celles de la précédente délibération. Et puis la seconde, la 5.3, la délibération qui vous est soumise vise à réaffirmer la cession à l'État pour l'euro symbolique d'une parcelle de terrain destinée à accueillir le futur commissariat. La délibération du mois de mars n'en actait en effet que le principe.
Voilà, il s'agit effectivement de se prononcer définitivement sur la cession de cette parcelle à l'euro symbolique. La communauté d'agglomération va également céder une toute petite bande de terrain qu'on a découvert il y a quelques jours appartenant à la communauté d'agglomération, donc ce sera fait également, sachant que sur la question des effectifs du commissariat de police, je me suis permis de saisir le ministre du sujet parce qu'on avait quelques inquiétudes et on devrait prochainement avoir des nouvelles sur le sujet. Pas de questions sur ce rapport ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous passons au rapport 5.4. Daniel Maire.
Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, je vous propose d'approuver le projet du périmètre du nouvel EPCI dénommé syndicat mixte du bassin versant de la Marne moyenne, ainsi que les dispositions contenues dans le projet de statut annexé à l'arrêté préfectoral du 17 août 2018. Comme indiqué dans le rapport en votre possession, ce nouveau syndicat est issu de la fusion de 7 syndicats existants, et notamment les dispositions de la loi GEMAPI. Alors, juste un mot pour rappeler que la loi GEMAPI, la gestion donc de l'eau et des milieux humides, est officiellement en place depuis le 1er janvier 2018. C'est-à-dire que l'État a mis en place avant même que quoi que ce soit ne soit érigé. Le principe même de la loi GEMAPI, c'est de s'intéresser au grand cycle de l'eau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les établissements publics, tous les EPCI, communautés de communes ou l'agglo, s'intéressaient à ce qu'on appelle le petit cycle, donc le cycle domestique, qui correspond à la production d'eau, la distribution, le traitement et la collecte des eaux usées, et également l'eau pluviale. Là, il s'agit de tout ce qui concerne l'eau naturelle, c'est-à-dire aussi bien les bassins que les rivières. Et le problème, c'est qu'effectivement, il n'existait rien. Avec en embuscade l'établissement public des Grands Lacs de Seine, qui était prêt à faire main basse sur l'ensemble des syndicats qui existaient, et l'EPCI, par exemple, dans laquelle nous sommes, donc l'agglomération de l'Épernay, a sur son territoire au moins 5 syndicats, puisqu'il y a la Marne moyenne, il y a le syndicat des Tarnots, le syndicat du Cubry, la Somme-Soude et le Petit Morin. Pour des questions techniques, le Petit Morin et la Somme-Soude vont repartir, puisqu'on travaille aujourd'hui en masse d'eau et en bassin versant. Et la différence avec ce qui existait avant, chaque syndicat était indépendant et autonome. Aujourd'hui, mais c'est bien sûr les communes qui finançaient, mais uniquement les communes qui étaient sur le lit mineur de la rivière. Aujourd'hui, la loi prévoit qu'effectivement toutes les communes soient sollicitées, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui les zones blanches. Bon, l'eau vient toujours de quelque part, mais aujourd'hui ne payaient que les communes qui avaient de l'eau chez eux, chez elles, ce qui était quand même tout à fait anormal. La loi GEMAPI va permettre de pouvoir solliciter la participation de l'ensemble des communes du territoire. Donc, l'initiative de Bernard Collard, président du syndicat de la Marne moyenne, on a mis en place, avec le concours de l'agence de bassin Seine-Normandie, des services préfectoraux, du département, on a mis en place, et de la chambre d'agriculture également, on a mis en place un projet qui s'agit d'approuver aujourd'hui, qui regroupe pour la Marne, sur l'ensemble du département de la Marne, la totalité des syndicats, donc 7 syndicats, et qui reprend tous les EPCI existants sur le territoire. À savoir, donc, en ce qui nous concerne, la communauté de communes de la communauté d'agglo d'Épernay. Pour ne pas casser, puisque les syndicats, la plupart des syndicats existaient depuis très longtemps, ils n'avaient besoin de personne pour travailler, sauf qu'ils étaient dans leur coin. Aujourd'hui, pour casser, c'est pour garder la dynamique, il est question de mettre en place des commissions territoriales qui reprennent des éléments des syndicats existants de façon à ce qu'il y ait une continuité par rapport à ce qui était fait. Donc, il y a un peu urgence à le faire, parce que le législateur n'avait pas prévu, effectivement, que ce soit mis en place aujourd'hui, sauf que la dernière année, l'année charnière, cette année, par exemple, enfin, cette année, en l'occurrence, les travaux 2018 ont été faits, mais c'était, par contre, les communautés de communes ou d'agglo qui finançaient, et ce qui a posé des problèmes de facturation, puisque les travaux étaient faits, mais la compétence n'était pas encore enregistrée, ce qui fait que ça a été pris sur le budget général, sachant qu'on peut avoir d'autres modes de financement, mais qui, pour l'instant, ne sont pas encore évoqués. Le principe aujourd'hui, c'est d'approuver la création de ces syndicats qui regroupent l'ensemble des syndicats de la Marne moyenne, sachant qu'il reste une paire de points de détail sur Vitry-le-François, par exemple, puisque là, on va être obligé d'arriver à avoir des accords interdépartementaux, puisque le principe, c'est que l'eau ne s'arrête pas sur la vallée de la Marne, par exemple. Ça part de Vitry-le-François à Cumières, ça, c'est le bassin de la Marne moyenne, mais ça continue après. On a négocié aussi avec Dormont et Château-Thierry pour essayer de faire un très grand syndicat, ce qui n'a pas marché parce que les intérêts ne sont pas rigoureusement les mêmes. Et la charnière, c'est Dormant qui avait le choix entre venir de notre côté ou repartir sur Château-Thierry. Ils ont pris la décision de partir sur Château-Thierry. Les conditions étaient un peu différentes. Mais au niveau du fonctionnement, il n'y aura pas vraiment de différence par rapport à aujourd'hui, puisqu'il y aura toujours une autonomie de gestion par le fait de ces groupes constitués sur les anciens syndicats qui existent.
Merci. Effectivement, c'est toute la gouvernance du grand cycle de l'eau qui est bouleversée. On sera amené à revenir sur cette question dans le cadre de la communauté d'agglo, puisque la communauté d'agglo va être adhérente à plusieurs syndicats, puisque les bassins versants sont différents. Certains vont vers la Marne Moyenne, d'autres vont vers d'autres rivières dans le sud de notre agglomération. Et donc, ça implique que nous adhérions évidemment à ces nouveaux syndicats. Des questions ? Oui, monsieur Angers.
Si je comprends bien, donc on met en place un périmètre, mais à l'intérieur duquel il y aura quand même des actions qui vont rester différenciées selon l'historique de provenance et de syndicats anciens. Quoi.
Disons qu'il va y avoir des regroupements en entités plus grandes, donc en syndicats plus grands, mais pour éviter effectivement de décourager ceux qui, sur des micro-syndicats aujourd'hui, s'occuper des problématiques de l'eau, il y a effectivement une gouvernance qui va être conduite, qui va permettre de laisser les responsables locaux qui jusqu'ici faisaient très bien leur boulot le faire. Ils le feront dans le cadre d'un syndicat plus large, mais il y aura des espèces de commissions, tu l'appelais comment ? Des commissions territoriales en fonction des différentes rivières qui convergent vers la Marne, s'agissant du syndicat de la Marne Moyenne. Et effectivement, notre territoire sera impacté par d'autres syndicats, puisque la Marne Moyenne va toucher grosso modo le nord de notre territoire de l'agglo. Le sud sera touché par deux autres syndicats de mémoire. Et donc, on sera membre souvent minoritaire, parce que évidemment, ce sont des cours d'eau qui vont descendre ensuite vers le secteur de la communauté de communes des paysages du Champagne, celle de Dormant, hein, s'agissant du Petit Morin, peut-être bien. La Somme-Soude, effectivement. Donc, en fonction des orientations des rivières et de leur cheminement, on sera rattaché. La communauté d'agglo sera répartie sur trois syndicats différents, le principal étant la Marne Moyenne. Hein, le secteur des Pernets est, lui, totalement tourné vers la Marne Moyenne. Et donc, bon, cette gouvernance, Bernard Collard était venu l'expliquer lors du séminaire qu'on avait fait à Chouilly. Parce que c'est effectivement, ça bouleverse beaucoup de choses. Là, bon, en même temps, il fallait s'organiser avec des syndicats de niveau départemental ou infradépartemental. Sinon, s'il n'y avait pas d'organisation, c'était effectivement l'établissement public qui prenait la totalité depuis Paris quasiment. Et là, on risquait d'être confronté à des charges de structure beaucoup plus lourdes et à une déconnexion totale entre les acteurs du terrain qui entretiennent déjà les berges, qui font déjà le travail sur un certain nombre de rivières, et le centre de décision qui aurait été hors département, ce qui nous aurait, à mon avis, conduit à des augmentations très importantes des coûts liés à la géothermie de l'eau.
Ce qui me semble important, c'est quand même effectivement de maintenir, je dirais, l'approche locale sur ces, sur ces problématiques-là. Effectivement, s'il y avait peut-être certains mitages dans l'action, c'est peut-être parce qu'il y a des secteurs, il n'y avait peut-être pas de prégnance à intervenir. Il ne faudrait pas qu'en ramenant la gouvernance à plus haut niveau, on soit amené à prendre des décisions unilatérales qui impactent le territoire, alors qu'il n'en avait pas forcément besoin. C'était simplement
oui, et puis aujourd'hui, l'objet de ma réflexion. Comme l'a dit Daniel, il y avait des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'il y avait des communes qui n'avaient pas de rivière, à proprement parler, qui ne cotisaient à aucun syndicat. Or, les autres, ces communes, finissent bien dans les rivières d'une manière ou d'une autre. Donc la nouvelle définition des territoires a permis de ranger toutes les communes dans un syndicat de l'eau, parfois deux pour certaines communes, mais c'est rare. Et donc, chaque commune pourra y contribuer, ce qui ne retirera en rien les responsabilités des propriétaires des terrains qui bordent les rivières, qui ont des obligations d'entretien. Il ne s'agit pas que demain, ces syndicats fassent le travail à la place des propriétaires de rivières, mais veillent à ce que ces travaux soient entrepris, comme c'est le cas actuellement dans la plupart des petits syndicats.
Ce qui me semble quand même important à souligner, au-delà de ce périmètre, quand on parle GEMAPI, on parle possibilité de lever la taxe. J'étais à cette réunion animée par l'agglo à Chouilly et on constate qu'on est quand même à des niveaux d'impact par habitant qui est tellement modique que ça ne justifie pas, en l'état, un appel à cotisation. Moi, je pense que
c'est-à-dire pour cette année,
dans ces temps un petit peu troublés où derrière les termes taxes on met pas mal de choses, je pense que c'est peut-être l'occasion de rappeler, alors ça relève certainement plus de l'agglo que de la ville, mais de rappeler quelles sont nos intentions dans ce domaine.
Oui, effectivement, quand a été créée la taxe GEMAPI qui a été prévue par le législateur, bon, au regard de la faiblesse des dépenses à faire pour 2018, cette taxe n'a pas été votée. Elle pourra l'être dans les années qui viennent, mais on le sait d'ores et déjà à des montants extrêmement faibles. hein, puisque on est alors potentiellement le maximum de la taxe GEMAPI, je crois que c'est 40 euros par habitant. Et nous, je crois qu'on serait autour de 3 euros par habitant, quelque chose comme ça, pour faire face aux besoins actuels. Donc c'est pas la peine d'aller voter 10 ou 30 euros si 3 euros suffisent par habitant. Et c'est évidemment la communauté d'agglomération qui, devenant compétente, réglera cette... instituera cette taxe le cas échéant. Pour l'instant, il a été décidé pour l'exercice 2018 de ne pas le faire. Donc on aura des débats sur ce sujet à la communauté d'agglomération.
Il faut être très prudent parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble des travaux de l'AGEMA, puisqu'il y a l'AGEMA et l'API, ces deux choses, la protection des inondations, n'est pas obligatoirement liée à l'AGEMA. Il peut y avoir les deux. Là, pour le coup, on serait plus sur l'AGEMA que sur l'API, parce que l'API, ça peut aller très loin en termes de fonctionnement, enfin en termes de coûts. Mais par contre, là où il faut être prudent, c'est qu'actuellement, c'est vrai que ça ne coûtait pas cher, mais ça coûtait d'autant moins cher que pour les communes, il y avait quand même en gros 75% des subventions sur l'ensemble des travaux. Ce qui veut dire qu'il y avait l'agence de l'eau qui finançait une partie et l'entente-marne qui existait. Le département a pris l'initiative, et on peut le féliciter, de continuer. Bon, l'entente-marne est disparue, mais le département va continuer à abonder de la même manière que ce qui est aujourd'hui. Par contre, il n'est plus question pour l'agence de bassin de financer quoi que ce soit, sinon pour la restauration des rivières. Et là, c'est dramatique. Enfin, pour moi, c'est dramatique parce que et ça nécessitera à un moment ou à un autre de s'engager sérieusement sur la taxe, dans la mesure où il n'y a plus de travaux. On risque d'avoir, à un moment donné, une baisse de travaux très, très conséquente sur l'entretien des rivières. Je rappelle que sur le Cubri, par exemple, mais c'est vrai pour la Marne moyenne. La Marne moyenne, dans les travaux, par exemple, là, ces dernières semaines, il y a eu des travaux sur le quai de la Villa qui ont été extrêmement impressionnants, puisqu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'arbres qui étaient en position dangereuse sur le lit de la rivière et qui ont été détruits. Mais sur le syndicat du Cubri, par exemple, tous les ans, on fait un linéaire, et ça veut dire que tous les 5 ans, on repasse au même endroit. Il est évident qu'à partir du moment où on n'a plus aucune subvention, les problèmes sont très, très différents et qu'on a quand même beaucoup de chance d'avoir beaucoup moins, sur l'ensemble des rivières, beaucoup moins de travaux. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, on arrivera à privilégier la protection des inondations plutôt que la GEMA. Et là, il faut être très prudent. Et c'est là où on aura l'occasion d'avoir de nouveaux débats par rapport à la taxe GEMAPI. Mais qui, à mon sens, à un moment, sera absolument indispensable par rapport à la masse de travaux que ça peut représenter. Mais ce sera l'objet d'un autre débat.
Oui, mais d'où l'importance quand même de bien considérer que la délibération qu'on prend n'est pas forcément indolore et qu'il faut veiller, je dirais par celle-ci, à conserver une autonomie ou tout du moins une capacité de réflexion et d'adaptation des gens du territoire. Ça va des collectivités, mais ça va aussi des riverains, des cours d'eau sur leur territoire, parce qu'au travers de leurs pratiques, elles peuvent impacter, je dirais, ce phénomène. Donc je crois qu'il faut être quand même effectivement très, très attentif, dans la mesure où derrière, il y a effectivement à terme la possibilité que notre niveau de taxe soit amené à être plus élevé.
Alors, il faut savoir que juridiquement, il y a une différence fondamentale entre les rivières domaniales et non domaniales. Le Cubri, par exemple, c'est une rivière non domaniale, et c'est normalement le riverain qui doit le faire. Sauf que les prescriptions techniques pour l'entretien de rivières sont très, très, très strictes, tant sur la faune que la flore, sur le risque d'avoir un problème hydraulique sur la rivière, et que, en ce qui concerne la plupart des syndicats, c'est la CATER, la chambre une cellule d'aménagement du territoire de la Chambre d'agriculture, qui est le bras armé et qui, du reste, monte tous les dossiers pour, effectivement, arriver à ce que ça se fasse dans la règle de l'art. Et qui le font de façon à ce que la création du syndicat, c'était justement de faire en sorte que les communes se substituent aux propriétaires pour être sûr que les travaux soient faits dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, c'est l'essence même. Donc ça peut rester dans l'État, mais par contre, il faut toujours être prudent par rapport aux problèmes de réglementation et de survie des rivières.
Bien. Sur ce rapport, avis contraire, abstention, 3 abstentions. Le rapport... Quatrième est où ? Non, 3. 3 abstentions. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5.5, Jonathan Rodriguez.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'adopter cette délibération qui nous engage à adhérer à la charte régionale d'entretien des espaces publics, d'entretien, anciennement espace public, et qui nous décernera, en ce que j'espère, le label Commune Nature, qui démontre notre engagement en matière de zéro phytosanitaire pour la commune. Comme vous le savez, on a engagé cette démarche depuis longtemps. On avait commencé en 2009. pour avoir, depuis 2012, totalement arrêté les phytosanitaires dans les espaces verts, tout ce qui est espaces, bosquets, etc. Et on avait engagé aussi un zéro phyto dans la voirie, ce qui est arrivé totalement à son terme en 2017, où on a aussi engagé les cimetières dans une démarche zéro phyto. Il y a eu quelques adaptations à trouver, puisque la nature a repris ses droits, donc il a fallu gérer cette irruption d'herbes, mais voilà, maintenant c'est assez maîtrisé. On arrive et on va continuer encore à s'adapter, mais voilà, on est en zéro phyto sur tout l'espace municipal. Donc maintenant, il y a la région qui a, après la fusion des régions, il y avait des dispositifs qui existaient en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Aujourd'hui, il y a une unification, donc on s'engage là-dessus et on vise le label commune nature niveau 1 pour cette distinction.
Merci. Il faut souhaiter que d'autres communes embrayent le pas et que viennent aussi se joindre aux nombreuses communes du Grand Est qui ont déjà un label commune nature avec, comme l'a dit Jonathan, c'est une libellule, deux libellules, trois libellules. C'est le même principe que pour les fleurs. Mais l'objectif, c'est d'aller le plus haut possible, le démontrant par là même les efforts qui sont accomplis par nos services espaces verts. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons ensuite au rapport 5.6. Toujours Jonathan Rodriguez.
Oui, merci. Donc, c'est une convention financière avec Energy Cities, qui est une association à laquelle nous avons adhéré, et qui nous permet de travailler notamment sur le projet Tandem de coopération en matière de transition énergétique entre la France et l'Allemagne. Donc, nous sommes évidemment partenaires avec notre ville jumelle d'Ettlingen. On a fait quelques projets depuis quelques années maintenant, avec des échanges scolaires, avec le lycée Stéphane Hessel, par exemple, des échanges aussi avec les techniciens de la ville d'Épernay ou de l'agglomération, avec les techniciens allemands qui ont pu travailler, venir voir quelques jours comment on travaillait dans les services, comment les services techniques travaillent en matière d'énergie, en matière d'eau, de traitement des eaux, etc. Donc il y a des choses qui ont été faites. Évidemment aussi, il y a eu un échange, c'est plus nous directement, mais c'est avec le pays d'Épernay sur le véhicule espace info-énergie, où il y a un cofinancement de nos amis d'Ettlingen. Donc là, c'est une convention qui permet de recevoir le prix que nous avons. On a reçu un prix. Maintenant, il faut le recevoir en numéraire, puisqu'il y a 6 000 euros qui nous sont attribués grâce à notre action énergétique. Donc c'est plutôt les Allemands qui, vous verrez le détail dans la convention, c'est les Allemands qui nous versent 6 000 euros pour récompenser le travail qui a été fait. Et ces 6 000 euros seront non pas gardés pour le service développement durable, mais seront affectés au lycée Stéphane Hessel, parce qu'ils ont un projet avec les lycéens de construire une mini-éolienne. Donc ils la construisent de A à Z, hein. Ils vont travailler sur les techniques, puisque c'est un diplôme en matière de STI 2D, donc sciences et technologies de l'industrie et du développement durable.
Non,
donc,
de l'ingénieur, je pense.
Comment ?
Sciences et techniques de l'ingénieur, développement durable, je pense.
J'ai l'industrie et développement durable. On vérifie. C'est ce qui est dans la délibération. Donc, je disais la délibération bêtement, mais il me semble bien que c'est ça, quand même. Mais ça en fera des ingénieurs, pourquoi pas. C'est en tout cas un bon partenariat qui se fait. Ça se fait depuis plusieurs années. Il y a eu une quinzaine d'élèves qui viennent à chaque fois, ou qui viennent en Allemagne, qui viennent en France, ou qui vont en Allemagne. Donc, ça se marche bien. Donc, voilà, on a affecté ces 6 000 euros, soit à l'achat de matériel et de matériaux, et aussi à la participation au transport pour s'y rendre et pour accueillir les élèves allemands.
Merci. Des questions sur ce rapport ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5.7. Toujours Jonathan Rodriguez.
Oui, merci. Donc là, c'est une délibération qui est un peu similaire à ce qui a été passé il y a quelques mois en arrière. C'était pas le même bénéficiaires, mais on met à disposition gratuitement nos deux caméras thermiques pour le pays d'Épernay, puisque avec la maison de l'habitat durable, il y a des choses qui se font en matière de rénovation énergétique. Donc il y aura des balades thermiques qui se feront sur le grand territoire. Et on a deux caméras qui sont de bonne qualité, qui sont assez performantes. Donc évidemment, il y aura des balades thermographiques à Épernay. On en a déjà fait. Certains d'entre vous y ont participé. Donc on le refera à Épernay, bien évidemment. Mais ça bénéficiera aussi à d'autres communes. Donc on l'a prêté gracieusement parce qu'on veut que ça fonctionne facilement. Et l'investissement est déjà fait, ça ne sert à rien de multiplier. Donc tant qu'elle fonctionne, on le prête au pays pour lequel on est partenaire, évidemment, en matière de rénovation énergétique notamment.
Merci. Des questions ? Oui, monsieur Hergé.
Oui, simplement, pour avoir un peu une idée de ce que ça peut générer derrière. Désormais, donc, il y a au niveau du pays, je crois, un véhicule pour transmettre l'information dans ce domaine-là.
Qu'on n'a pas encore, qu'on aura bientôt, je crois.
Il arrive dans 15 jours.
Dans 15 jours.
Enfin, il est prêt, là.
Donc,
Est-ce qu'on a idée un peu des travaux qui ont pu être générés par les particuliers derrière l'activité caméra thermique? Donc effectivement, après être sensibilisé, après être conseillé éventuellement par le point information énergie, cette dimension-là semblerait quand même intéressante à mettre en avant. Et si derrière un diagnostic, je dirais, délicat, des gens ne font pas de travaux à savoir quelles en sont les raisons? Est-ce que ce sont des raisons financières ou techniques qui peuvent bloquer? Parce que je pense que moi, il y a peut-être des domaines où il faudrait qu'on puisse avancer en termes de dispositifs. On soutient bien le ravalement de façades. Moi, je pense que là, les questions d'énergie, de transition énergétique, c'est des points qui suscitent débat. Sans reprendre l'actualité récente, on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui, dans notre pays, sont en souffrance économique et n'ont pas forcément des moyens pour passer certains caps. Comment on se situe dans notre ville par rapport à ça? Comment nos citoyens appréhendent ces questions-là? Ça me semblerait quand même intéressant qu'on passe à la vitesse supérieure dans ce domaine.
Alors, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure puisqu'on dispose maintenant d'une plateforme de rénovation énergétique qui est commune au PETR d'Épernay et au pays de Briey-Champagne. Avec une équipe de 3 personnes de mémoire, hein. Enfin, une personne sur Briey-Champagne et 2 personnes sur Épernay, qui sont dédiées uniquement à ça, qui sont d'un très bon niveau. Il y a un ingénieur dans l'eau notamment. Et l'objectif, alors ces 3 personnes sont sur des postes financés dans une très large mesure par la région et par l'ADEME ensemble, et également par le PETR d'Épernay. Et l'objectif, c'est d'aller de multiplier les contacts auprès des particuliers, de vendre la transition énergétique et surtout d'assister la mission totalement, c'est-à-dire d'aider complètement les particuliers qui souvent se heurtent à des problématiques. On ne connaît pas forcément les bonnes techniques à utiliser. Deuxièmement, on ne sait pas vers quel professionnel se tourner. Troisièmement, comment on monte les dossiers de réduction fiscale, etc. Et ces équipes de maîtrise d'œuvre, on va dire, auront la responsabilité de monter l'intégralité du dossier avec les personnes. C'est-à-dire que là où il y a des difficultés, et c'est vrai, pour avoir personnellement parfois fait des travaux en la matière, on ne sait jamais vers quels artisans se tourner parce que tous n'ont pas le label qui convient. Or, pour bénéficier du fonctionnement de la plateforme et notamment de la garantie en termes d'efficience des travaux, il faut que ce soit des artisans ou des entreprises labellisées RGE. Donc, il en existe un certain nombre sur le territoire. Il y a aussi des actions de formation qui sont menées vers les professionnels pour que de plus en plus ils puissent avoir ce fameux label. Plus il y aura de professionnels, plus évidemment ce sera facile pour les particuliers confrontés à la difficulté. Et puis il y a tous les dossiers sur les parties administratives et fiscales qui permettent derrière aux particuliers de bénéficier des avantages fiscaux. Donc la plateforme est mise en place depuis quelques mois. Hein, je crois qu'elle a ouvert en septembre. Donc on est en novembre. Ce que je vous propose peut-être, c'est d'organiser en marge d'un prochain conseil une réunion avec Martine Boutillat, la présidente, qui viendra nous présenter l'équipe et vous expliquer comment ça fonctionne, de manière à ce que chacun d'entre nous puisse être un relais auprès de Sparnassiens qui sont potentiellement intéressés, mais qui ne savent pas où se trouve la plateforme, qui ne savent pas comment on y accède, qui ne savent pas comment on finance ses travaux, alors que là, il y a un processus qui s'est mis en place et qui a vraiment du sur-mesure pour tout le monde. Et l'objectif, c'est de... Je ne sais plus quel est l'objectif de dossier par an à sortir.
200 par an.
Voilà. L'objectif, c'est de sortir à l'échelle du territoire Briey-Champagne et PETR 200 dossiers de rénovation par an. C'est ambitieux, mais ça fonctionne en Alsace depuis un certain nombre d'années parce qu'ils ont commencé bien plus tôt. Ça s'est étendu vers la Lorraine et vers la Champagne-Ardenne. Et il y a un potentiel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un potentiel économique derrière considérable. Parce que je ne crois pas dire de bêtises en affirmant que ça se chiffre en plus d'une dizaine de milliards sur 30 à 35 ans à l'échelle de la région Grand Est en travaux. Parce que vu le nombre de maisons, je crois qu'il y a plus d'1 million de maisons qui justifieraient des travaux, Allez, je vous donnerai les chiffres précis. Évidemment, beaucoup de maisons en milieu rural, etc., qui sont dépourvues de toute forme d'isolation et qui, de ce fait, ne sont pas habitables quasiment, qui sont des passoires énergétiques. C'est donc une manne extraordinaire pour le monde du bâtiment et les petites entreprises, parce qu'évidemment, si elles bénéficient du label RGE, elles vont pouvoir demain postuler sur tous ces marchés, et c'est la garantie de 15 ou 20 ans de travail, si ce n'est pas plus. Donc je proposerai que Martine Boutilla vienne au prochain conseil nous faire un petit exposé sur le sujet, parce que c'est vraiment une démarche extrêmement volontariste. Aujourd'hui, tous les outils sont en place. Il se peut, et vous avez raison, il se peut qu'il y ait encore des blocages. Il faut qu'on ait... mais je pense que les contacts qu'on va avoir, qui vont se multiplier sur les marchés, avec parce que le camion qu'on va avoir va nous permettre d'être sur tous les marchés, d'être au cœur des places du village pour aller au-devant des personnes concernées. Jusqu'ici, on les faisait venir dans la boutique de l'espace énergie, Info Énergie, mais c'est vrai qu'ils étaient obligés de venir sur Internet. Demain, c'est ce camion qui va se déplacer partout, qui va aller au-devant des gens et va les aider à, enfin, d'abord, essayer de les convaincre de passer à la rénovation thermique des bâtiments et surtout les assister de A à Z. Donc c'est vraiment, ça devrait être un booster extraordinaire.
Oui, tu as dit pas mal de choses. C'est vrai que c'est ouvert depuis septembre. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, c'est vrai qu'il y a différents niveaux de conseils en matière de rénovation énergétique. Il y a juste des prises de contact pour conseiller sur les économies d'énergie simple, de changement d'ampoule, de gestion des appareils électroménagers, etc. Parfois, grâce aux caméras thermiques, ne suffisent pas à dire il faut faire tels travaux. Une caméra thermique alerte sur des points précis. On voit qu'il peut y avoir une fuite sur le toit. Est-ce qu'il y a un morceau de laine de verre qui est tombé? Est-ce qu'il y a une tuile qui est cassée? Voilà. On peut aller dessus. Mais pour aller voir des travaux complets, il faut aller beaucoup plus en profondeur dans l'analyse des consommations, etc. Donc ça, c'est une chose qui est faite. Donc il y a différents niveaux. Je sais qu'il y a eu un poids qui a été fait lors de notre forum climat, qui est le pays était présent. Il y avait eu déjà 300 ou 400 conseils simples qui avaient été donnés. Donc maintenant, et pour les chiffres, je crois que sur une rénovation totale de maisons, il y a une quinzaine de jours, on était à 3 maisons qui étaient prêtes à être signées. Certaines étaient signées pour dire voilà, on commence les travaux quasiment au mois de janvier. Donc il y a des choses qui se font, il y en a déjà 3. Je crois qu'il y en a à Gion, il y en a sur le territoire de l'Aglo, mais il y en a aussi dans le pays plus largement. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Ça a déjà eu son écho. Si vous le voulez aussi, les élus, vous pouvez assister, vous pouvez aller aux portes ouvertes qui sont rue Pierre Servagnat. Il y a des portes ouvertes qui sont faites pour expliquer, montrer les bâtiments qui sont ici, expliquer la démarche et comment ça fonctionne. C'est vrai qu'on avait pris dès le début la tâche de tous les artisans, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Fédération française du bâtiment, de la CAPEB, pour que les artisans, dès le début, soient pris en compte et soient en amont de cette démarche pour qu'ils n'aient pas de surprise de notre démarche et qu'on soit en association. Donc ça a été fait directement avec eux. Il y a déjà une quinzaine, je crois, d'artisans qui ont signé la charte et certains ont déjà engagé des formations plus qualifiantes encore pour avoir une gestion totale des travaux énergétiques. La première sortie du véhicule Info Énergie, qui fonctionne au GNV, sera faite le samedi 1er décembre au marché de Dormans, donc à partir de 9h30. Vous pouvez aller, après être passé acheter quelques fruits et légumes sur le marché d'Épernay, vous allez au marché de Dormans pour compléter avec le fromage, par exemple, et vous pourrez voir ce véhicule Info Énergie qui sera présenté pour la première fois, première sortie. Et c'est vrai que ce véhicule, on y tient particulièrement parce que c'est il y a un cofinancement grâce à la ville d'Eklingen, grâce à la Stadtwerke d'Eklingen, qui était très intéressé depuis 2015 avec ce projet, parce que notre véhicule ira aussi en Allemagne, quand nous, il ne nous sert pas, parce qu'on ne va pas le conduire tous les jours. Donc, il y aura des moments où il ira en Allemagne pour aussi faire ce même travail. Donc les Allemands ont participé à ce financement. Ça veut dire que sur le pays d'Épernay, si on déduit les subventions de TFCV plus le financement germanique, ça nous fait 0 euro pour ce bus. Il y a juste la station de gaz à installer au centre technique, mais ça, c'est un coût modeste. Et on a une subvention de GRDF aussi là-dessus. Donc voilà, on essaye d'avoir des financements assez efficaces. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être un bon moyen d'aller chercher les gens, parce qu'on avait cette expérience d'un espace info-énergie fixe, que fixe à Épernay, et il faut le connaître, il faut y aller, c'est pas une démarche. Donc autant aller là où sont les gens. Évidemment, j'imagine que le pays fera passer ce marché par l'agglo, par le marché de Vertu, par le marché d'Épernay, pour que bah, aussi notre secteur soit bon en matière de rénovation énergétique. On a un diagnostic qui a été fait avec le plan climat. Il est en cours de finalisation. Donc il y a forcément une analyse qui a été faite sur les bâtiments, etc. Donc oui, il y aura évidemment beaucoup à faire en la matière. Je pense qu'il faudra aussi qu'on s'attache avec l'ANA, parce qu'il y a des opérations d'amélioration de l'habitat qui sont possibles avec des financements pour des gens qui sont éligibles à cette démarche. Et je rappelle aussi l'initiative du CCAS qui avait, grâce avec ses moyens, en tout cas on avait pu distribuer des ampoules LED à des foyers ciblés à Épernay, qui sont plutôt des gens avec des faibles ressources, soit des retraités à faible revenu, soit des personnes en situation délicate. Donc on avait distribué des ampoules pour leur expliquer voilà, que le LED remplacerait tout l'éclairage. On fait des économies. Et aussi, derrière, avoir un premier contact pour expliquer les démarches d'économie d'énergie qu'on peut trouver pour gérer au mieux son budget.
Madame Perrin et puis Claude Maréchal.
Est-ce qu'il y avait déjà eu quelque chose de fait avec... On vous avait demandé une fois de chauffer très fort les maisons et il y avait eu une photo.
Ah, c'était la thermographie aérienne.
Thermographie en 2007. Ça vient en complément.
Oui, c'est-à-dire que ça permet, les caméras thermiques permettent d'aller beaucoup plus près d'un bâtiment et de faire les tours de fenêtres. Donc d'avoir la thermographie aérienne était faite sur la base d'une photo aérienne par satellite ou par...
Par avion.
Par avion. Oui, il y avait un avion qui avait survolé par temps froid tout le territoire et qui avait pu identifier justement les déperditions de chaleur. La caméra thermique est complémentaire puisque ça permet de descendre à l'échelle d'un bâtiment et d'aller voir où sont toutes les déperditions. Est-ce que c'est effectivement à la jonction entre la toiture et le bâti? Est-ce que c'est au niveau de la cave ou du vide sanitaire? Est-ce que c'est les portes, les fenêtres? Enfin, ça permet vraiment d'ausculter dans le détail un bâtiment.
Et on le fait avec des professionnels, c'est vrai que c'est des ingénieurs thermiciens, parce que derrière, il faut imaginer qu'on a aussi des gens qui... Il y a des charlatans qui viennent, qui nous disent, voilà, il faut refaire ça ici, etc. Nous, on a vraiment des ingénieurs thermiciens qui sont indépendants et qui conseillent au plus près. Et on avait eu l'expérience dans un quartier, c'était Nicole à côté de rue Alfred Nobel, dans ce coin-là. On avait une dame qui disait, bah, tiens, il faudrait que je fasse des travaux dans mon toit, etc. On m'a dit que c'était un peu des vendeurs, hein, m'avaient dit, il faudrait y refaire le toit, etc. On a regardé avec la caméra. Son toit était plutôt correct, il était bien isolé, il n'y avait pas de fuite, il n'y avait pas de choses comme ça. En revanche, le salon qui était contigu au garage, lui, faisait beaucoup de transmission de froid. Donc là, par contre, s'il y avait quelque chose à faire, c'était isoler plutôt le mur du garage qui donnait sur le salon. Ça coûtait moins cher et il y avait une meilleure efficacité énergétique. Donc voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Là, on est sur un petit truc, c'est un petit conseil qui s'est fait en 15 minutes parce qu'on a fait des balades. Mais on voit, et c'est intéressant de faire une échelle du quartier, on invite les habitants du quartier à venir, c'est qu'on peut comparer après entre voisins. Ils savent ce qu'ils ont fait comme travaux les uns chez les autres. Et on peut dire, ben moi j'ai fait ça, t'as vu le résultat, ça marche ou ça marche pas. Donc c'est assez intéressant de le faire aussi. Mais ça reste qu'une sensibilisation, c'est pas à partir de ça... Soit la thermographie aérienne, soit la caméra thermique, c'est pas ça qui détermine les travaux. Il faut aller beaucoup plus loin pour analyser les chiffres.
Examiner la nature des matériaux.
Ça demande du temps, ça se fait pas en coup d'un coup.
Donc ils sont sur le marché, mais après, comment on peut les faire venir dans un quartier ou...
Alors, ils vont d'abord démarcher donc l'ensemble des communes du territoire. Il y a, je ne sais pas combien de communes entre Brie et Champagne et le pays d'Épernay, mais enfin, 100, c'est assez considérable.
200, je crois. 200,
et puis, il y aura également des bureaux à Épernay où ils pourront aller au domicile en fonction des prises de rendez-vous. En fait, l'objectif du camion, c'est de sensibiliser et de prendre des rendez-vous, des contacts téléphoniques. Et derrière, ils sont plusieurs, ils sont trois sur le territoire à temps plein. Et leur objectif va être d'aller identifier des situations, voir sur place la nature des travaux. Et à partir du moment où les gens souhaitent s'engager, les accompagner jusqu'à l'achèvement des travaux. Donc on ne les laisse pas tomber. Il y a au contraire une garantie de suivi tout au long des travaux, dans le montage du dossier avant, pendant les travaux et après les travaux pour s'assurer que les travaux ont été correctement faits.
J'ai encore une question subsidiaire. Enfin, c'est plutôt une appréciation. C'est que c'est plutôt bien comme démarche. Mais on est sollicité via le téléphone par moult entreprises, voilà. Et comment les gens, ils vont faire la différence entre les entreprises qui démarchent de manière...
C'est là que notre rôle à nous élus, c'est de dire à des gens, quand on entend parler que quelqu'un a été démarché téléphoniquement, etc. Un, soyez prudents. Allez, vous passez un coup de fil à la plateforme... comment il s'appelle
La Maison de l'Habitat.
La Maison de l'Habitat à Épernay. qui pourra vous apporter des renseignements. Les agents de la Maison de l'Habitat sont totalement désintéressés. Ils ne sont pas liés ni à une marque, ni à un artisan, ou quoi que ce soit. Ils sont là pour faire de l'efficacité énergétique. Donc, peut-être que dans certains cas, les démarches téléphoniques sont faites par des gens parfaitement fondés, qualifiés, etc. Il y a peut-être et même sûrement quelques gens peu fiables dans le lot. L'avantage, c'est que si on a un doute, on téléphone à la plateforme, ils auront les références de la personne, ils pourront éventuellement rappeler le service ou dire, voilà, on connaît cette entreprise, ce sont des gens fiables, vous pouvez y aller. Par contre, telle autre entreprise, on sait que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, quoi. Monsieur,
est-ce que notre rôle de service public dans ce domaine peut aller jusqu'à aider les gens, les citoyens qui sont en difficulté par rapport à cela, à bien organiser leur mise en concurrence lorsqu'il y a plusieurs entreprises qui vont solliciter, bien les orienter dans ce choix-là? Est-ce que ça peut aller jusqu'à les aider à aller vers la banque pour avoir un crédit du meilleur niveau? Moi, il me semble important, là, de pas, au moment où on se parle, de ne pas laisser nos citoyens dans le doute ou au milieu du guet dans ce domaine-là. Parce que on comprend bien les difficultés qui sont les leurs. Je crois que les messages sont clairs. Ça ne tient pas à nous, ça tient beaucoup à la politique du gouvernement actuel pour laquelle les gens ont une répulsion en ce moment. Mais d'un autre côté, ne lâchons pas le bébé de la transition énergétique, parce qu'on ne peut pas raisonner simplement à l'échelle de notre génération. On a besoin d'y voir clair. Et moi, je pense que dans ce domaine-là, effectivement, il y a aujourd'hui des possibilités, vous l'avez souligné, monsieur le maire, au travers d'entreprises qui ont aujourd'hui du personnel, voire même des chefs d'entreprise aujourd'hui formés alors qu'ils ne l'étaient pas il y a 10 ans. Et quand vous faisiez passer 3-4 entreprises, 3-4 corps de métiers différents, il suffisait d'un mauvais pour venir détruire, je dirais, toute la dynamique qui avait pu être mise en place par les autres dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, on a des visions globales en la matière. Notre objectif, je pense, à nous, il est de faire en sorte qu'on n'oublie personne sur le chemin et surtout pas que la fracture énergétique vienne s'ajouter à d'autres fractures qui existent actuellement. Donc nous avons matière à être attentifs et effectivement, ça passe par beaucoup de temps à y consacrer, je dirais, dans des éléments d'aide à la décision, en fait. Hein.
Alors, je laisserai Martine Boutillat répondre dans le détail sur la manière d'intervenir. Sachez qu'il y a, en appui des plateformes de rénovation énergétique, une SEM qui a été créée par la région, qui s'appelle Octave, qui fonctionne déjà et qui permet non seulement de venir en soutien des travaux, mais de financer les travaux avec un pool bancaire, l'objectif étant... Alors, vous avez trois catégories de personnes. Vous avez les personnes qui ont des moyens importants et pour lesquels ils se débrouillent par eux-mêmes pour faire un prêt à leur banque. Et puis, on a la catégorie des personnes qui sont parfois un peu justes, c'est-à-dire que les concours bancaires ne sont pas gagnés d'avance. Et l'intérêt de cette SEM, ça va être d'accompagner les personnes qui sont candidates pour la rénovation thermique, de démontrer à la banque contractuellement et de manière certaine le montant des économies que vont faire les personnes avec la rénovation thermique. Ce montant d'économies peut être parfois supérieur à 200 euros par mois. Donc effectivement, si on prend en considération dans le budget familial le fait qu'avec les travaux, les dépenses énergétiques vont diminuer de 200 euros par mois, ça débloque des situations parfois auprès des banques. Oui. Donc cette SEM qu'on ne connaît pas encore et avec laquelle on va être familiarisé d'ici peu... Non, mais la SEM s'engage sur l'économie qui sera faite, puisqu'on amène les gens jusqu'au niveau BBC, bâtiment basse consommation. Donc on sait, au mètre carré et sur la totalité de la maison, quelle sera l'économie réalisée chaque année. Et c'est cette SEM qui permettra, par son intervention auprès d'un certain nombre de banques qui vont quelque part s'associer à cette SEM, garantir aux banquiers qui seraient un peu frileux en disant « mais cette personne est déjà assez fortement endettée, elle n'a objectivement pas les moyens d'être financée », que garantir à cette personne que les travaux vont redonner un pouvoir d'achat à cette personne, puisque ces travaux vont faire diminuer de X% sa facture énergétique garantie à l'appui. Donc il y a tout un organisme là-dessus, une démarche qui se met en place. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse peut-être, puisque c'est un sujet effectivement extrêmement important, on parle beaucoup de la transition énergétique, ça c'est du concret dans la transition énergétique, qu'on fasse cette présentation prochainement, puis je demanderai également à quelqu'un de la région de venir avec Martine Boutillat pour présenter le dispositif Octave. Quelques exemples à l'appui, on verra effectivement ce que ça représente pour un particulier. Et je crois d'ailleurs qu'on sera sollicité au niveau de la communauté d'agglomération ou de la ville pour entrer dans le capital de la SEM à un montant extrêmement faible. Mais l'idée, c'est de faire adhérer les territoires au capital de la SEM, qui fonctionne déjà depuis un certain temps, pour asseoir l'ancrage territorial de cette SEM, qui est soutenue évidemment par la Caisse des dépôts, par l'ADEME, par toute une série d'acteurs qui sont associés dedans, parce que, encore une fois, le chantier de la transition énergétique à travers la seule question de la rénovation thermique des bâtiments, c'est un enjeu considérable, parce que la première... quand on parle de réduire nos consommations d'énergie, la première chose à faire, c'est d'isoler les bâtiments. C'est ensuite d'opter pour des énergies renouvelables, on le sait tous. Mais commençons déjà par moins consommer. Et ça, ça passe par un vrai travail de conseil personnalisé et professionnalisé auprès des particuliers. Il y a eu trop d'arnaques et trop de gens qui se sont fait avoir. On leur a promis monts et merveilles. Et quand ils ont vu la facture énergétique, ils n'ont pas vu de changement massif. Donc si on veut y arriver demain, il faut vraiment certifier l'intervention en la matière, et l'intervention publique reste, à mon avis, quelque chose d'extrêmement important sur le sujet. Oui,
juste,
un dernier mot.
Juste oui, mais c'était sans rentrer dans le détail, je pense que la présentation sera utile, mais la démarche est aussi faite par la maison d'habitat d'accompagner financièrement avec les banquiers, etc., pour avoir le maximum de subventions, les certificats des communes énergie, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement au plus près pour convaincre les banquiers de déclencher des prêts éventuellement. Et aussi, comme il y aura une liste d'artisans compétents en la matière qui sera proposée, évidemment, on ne peut pas dire « va chez un tel », mais il y aura une liste d'artisans qui sont engagés dans la démarche, qui ont signé la charte. Donc du coup, ils sont habitués à ça, ils sont habitués à travailler ensemble, à avoir une démarche complète de rénovation. Donc,
ils ont les qualifications.
Voilà, donc c'est pour ça que beaucoup s'engagent dans la démarche pour aussi avoir les marchés. C'est important d'être sur le coup quand on y a des objectifs comme ça. Donc c'est prévu aussi.
Alors avec l'autorisation de Claude, un mot d'Anne-Marie et ensuite Claude. Elle m'a dit que c'était un mot.
Non, moi je voulais juste rajouter qu'un moyen afin que les gens aient la bonne information, c'est qu'au moment où ils déposent leur... une autorisation de travaux pour refaire leur toiture ou un permis de construire, c'est qu'on leur donne la bonne information et qu'on les oriente vers la maison de l'habitat. Par exemple, leur donner des brochures, j'en ai déjà parlé avec Martine Boutillat, et au moins on est sûr qu'ils iront au bon endroit, qu'ils sont...
Oui, donc il faudrait qu'on voit ça avec effectivement les notaires, les agents immobiliers, le service de la communauté de communes quand ils délivrent les permis.
Quand les gens viennent déposer leur CERFA, en même temps, on leur donne...
Il y a déjà des informations, par exemple, l'aménagement de certains logements avec le Comal Pact et tout ça. On a dans les observations ça, il suffit juste de rajouter une ligne.
Claude, qui a été très patient sur le coup.
Oui, je suis habitué. simplement apporter un témoignage avec Pierre, comme quoi il y a eu une très bonne réactivité. Rappeler quand même que c'est une mission de service public, donc c'est un conseil qui est gratuit et qui est de qualité. On a eu l'occasion de voir comment on pouvait aider certaines associations à poser un bon diagnostic et à arbitrer sur des investissements. Donc ça, c'est quand même tout à fait significatif. Bien entendu, la vie n'est pas opposable. Hein. C'est un conseil, et après, bien entendu, c'est la personne qui doit en juger. Moi, ce que je pourrais prouver également, c'est qu'on a un panel d'artisans qui a adhéré et qui est significatif, qui a une montée en compétences qui va se développer à l'échelle des deux pays. C'est quand même un potentiel tout à fait significatif. Donc, à la fois, l'élément de conseil sur le diagnostic et sur le conseil qui peut être très, très largement diffusé, simplement, y compris sur le montage financier pour savoir si les dossiers sont éligibles à l'ADEME ou sont pas éligibles. Donc la partie des conseils est quand même considérable, peut encore évoluer. Alors jusqu'au montage, ça me paraît quelque chose quand même d'un peu complexe. Les certificats d'économie d'énergie, il y a une simulation qui a été envisagée, mais c'est un dossier extrêmement complexe qui prendra du temps, quoi. Donc les enjeux économiques sont évidents, et la qualité du service à l'usager est quand même très précieuse.
Oui.
Simplement, le montage avec la structure là, qui sera chargée effectivement de faire ces attestations, moi, ça me semble intéressant et ça mériterait certainement de nous être expliqué avec beaucoup d'exhaustivité, qu'on comprenne bien la chose. Parce que moi, ce que j'y vois derrière aussi, c'est de trouver le moyen de dire à un certain nombre de propriétaires modestes de cette ville, parce que il y a des gens qui ont des maisons de famille ou qui ont acheté par leur travail et qui n'ont pas forcément nécessairement beaucoup de revenus. Et moi, je trouve que c'est un moyen de leur dire « vous êtes amené à faire des travaux ». C'est une forme de garantie d'emprunt, à la limite, en équivalence aux garanties d'emprunt qu'on fait vers des bailleurs sociaux d'importance et où là, on ménage pas notre peine et nos chiffres à garantir. Donc au travers de notre action derrière cela, on garantit aussi collectivement un certain nombre d'engagements. Et je pense qu'il faut bien le définir, bien nous le présenter et surtout bien le présenter à nos concitoyens.
Donc on fera une présentation, on prendra le temps qu'il faut pour le faire. Peut-être qu'on le fera d'ailleurs au niveau de l'agglo et on invitera tous les conseillers municipaux qui ne seraient pas membres de l'agglo à venir, ce qui permettra aussi d'en faire profiter les 46 autres communes et de faire pour le coup se déplacer des vrais spécialistes jugés. Martine Boutilla, s'agissant évidemment, et son équipe s'agissant de la maison de l'habitat, mais également aux deux responsables de la région, des techniciens qui pourront expliquer comment ils procèdent sur les territoires, les résultats que ça donne, le nombre de réalisations exécutées et surtout des résultats concrets. C'est-à-dire, voilà, Madame Intel, Monsieur et Madame Intel habitaient un pavillon, ils avaient dépensé tant d'énergie. On sait aujourd'hui de combien leur a fait baisser l'énergie tous les mois, quoi. Et ça, c'est parlant. Ça, c'est assez démonstratif. Et je pense que c'est ce genre d'argument qui nous permettront à chacun, quand on rencontre des gens dont tu sais qu'ils vont faire les travaux, leur dire, ben, attends, avant de faire les travaux, va jeter un coup d'œil à la maison de l'habitat. Tu auras peut-être des conseils à viser en la matière, comme on a eu effectivement le cercle athlétique Pierre m'en parlait à l'instant, où effectivement, ils hésitaient entre deux formes de chauffage. Ils ont été voir la maison de l'habitat et le lendemain, ils avaient un technicien qui était présent qui leur a conseillé sur les avantages et les inconvénients de tel type de chauffage. Ils ont pu faire un choix avisé en fonction des conseils d'un très bon technicien qui les a, alors qu'ils hésitaient comme bon nombre de... Voilà, parfaitement neutre, qui leur a dit voilà, les avantages de telle solution par rapport à telle autre. Et du coup, ça leur a permis d'accélérer leur commande. Voilà. Sur ce rapport, avis contraire, abstention. Le rapport est adopté. Il nous reste donc le traditionnel rapport de clôture concernant les décisions prises par délégation du Conseil municipal, article 2122-22. Est-ce que vous avez, mes chers collègues, des explications à demander sur les décisions énumérées dans le rapport qui vous a été adressé ? Marc Lefebvre n'étant pas là, il n'y a pas de question. C'est l'habitué, c'est l'abonné aux questions. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre participation. Le prochain conseil, c'est le 17 décembre, ce sera les orientations budgétaires, je pense. Hein. Donc, on se retrouve le 17 décembre dans cette même salle. Merci. Bonne soirée.
Bon, t'as vu le Racine quand même.